Bonjour, c'est Olivier. Aujourd'hui, on se retrouve sur IDFM Radio pour votre nouvelle émission. Une émission qui s'intitule Mission Planète Terre. Cette émission va nous permettre de voyager à travers l'écologie, la transition énergétique, la transition écologique, le développement durable, le réchauffement climatique, l'adaptation des villes au changement climatique et l'environnement. Pour inaugurer cette nouvelle mission Planète Terre, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui un paléoclimatologue de renommée internationale. Il se fait connaître à la fin des années 80 lorsqu'il publie avec Claude Lorius et ses collègues la première étude établissant formellement le lien entre la concentration de CO2 dans l'atmosphère et l'évolution de notre climat. Mondialement reconnu pour ses travaux de recherche dans ce domaine, il est lauréat de nombreuses distinctions scientifiques, parmi lesquelles la médaille d'or du CNRS et le prix Wettlesen, considéré comme l'équivalent du prix Nobel pour les sciences de la Terre. Il est membre des Académies des sciences de France et des États-Unis. En 2007, le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, se voit décerner avec Al Gore le prix Nobel de la paix. Bonjour Jean Jouzel, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Olivier Prêt, merci beaucoup de cet échange.
Alors nous observons tous des canicules, surtout cet été, on a vu ça, des canicules plus fréquentes, des inondations, des orages violents, des feux de forêt, des pics de chaleur. Ces phénomènes parfois dramatiques signent-ils l'emballement du réchauffement climatique ? Sommes-nous, Jean Jouzel, à un point de non-retour ? Et est-il encore temps d'agir ?
Par rapport à cette question, j'aimerais simplement souligner que ce que nous vivons aujourd'hui est vraiment ce que nous envisageons dans notre communauté depuis une cinquantaine d'années. C'est-à-dire que quand on regarde les projections du GIEC, eh bien, on voit bien que ce que nous vivons en termes de rythme de réchauffement, d'intensification des événements extrêmes, d'accélération de l'élévation du niveau de la mer, eh bien, c'est ce qui est envisagé. Et donc, je ne pense pas parler d'emballement. Ce que nous vivons, c'est ce que nous prévoyons depuis une cinquantaine d'années. Donc, alors, ça ne veut pas dire, par exemple, depuis une trentaine d'années, une vingtaine d'années, je montrais déjà des cartes qui indiquaient que les feux de forêt allaient devenir plus fréquents, plus intenses que des régions comme l'ouest de la France ou le centre de la France qui n'étaient pas affectées allaient l'être, et nous en sommes là déjà. Donc, il ne faut pas être surpris. Et alors, ce que nous vivons aujourd'hui ne signifie pas vraiment un emballement du réchauffement climatique, sauf peut-être ponctuellement. Par exemple, certaines vagues de chaleur sont plus intenses que ce qui était prévu, mais c'est vraiment ponctuel. Alors, cette notion d'emballement a cependant un sens, c'est-à-dire que si nous allons au-delà de certains seuils, eh bien, il risque d'avoir des emballements du réchauffement climatique, par exemple en termes de fonte de l'Antarctique, nous en reparlerons. Donc oui, la notion d'emballement est quelque chose qui a un sens, mais qui n'est pas encore, je crois, dans l'évolution du climat actuel. Cette évolution est vraiment ce qui était envisagé en fonction de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est bien nous qui sommes à l'origine de ce réchauffement et de l'ensemble de ce réchauffement. Alors, sommes-nous à un point de non-retour ? Non, pas vraiment. Il est toujours temps d'agir. Je dirais toujours qu'un dixième de degré, ça compte. Alors, l'action, évidemment, ce n'est pas pour, c'est vraiment pour limiter le réchauffement climatique et, si possible, revenir à des températures inférieures à 2 degrés, si possible à 1,5 degré à l'échelle planétaire. C'est là tout l'enjeu, mais il faut aussi ne pas dépasser ces 2 degrés de façon trop importante, parce que là, il y aura des phénomènes irréversibles, en particulier par perte de biodiversité. Donc, la situation est vraiment dramatique, même si elle reste toujours, d'une certaine façon, je l'espère, maîtrisable.
D'accord. Vous avez parlé justement de l'Antarctique. Qu'en est-il en fait du réchauffement de l'Antarctique et quelles conséquences à l'échelle planétaire ?
Donc, de façon assez remarquable, l'Antarctique, alors au début de ma carrière, je suis chercheur depuis une cinquantaine d'années dans ce domaine, je me suis beaucoup intéressé à l'Antarctique. Eh bien, quand j'étais jeune chercheur, on disait que l'Antarctique ne se réchauffait pas. L'Antarctique s'est réchauffé un peu plus tardivement que les autres régions de la planète. Mais en fait, sur les années récentes, eh bien, on constate que le réchauffement de l'Antarctique est deux fois plus rapide qu'à l'échelle planétaire. Il y a des conséquences de ce réchauffement de l'Antarctique, en particulier en termes d'élévation du niveau de la mer. L'élévation du niveau de la mer, elle est de 4 à 5 mm, 4 mm par an actuellement. Elle s'accélère, elle est deux fois plus importante qu'il y a une vingtaine d'années, et elle est en partie liée à la dilatation de l'océan, mais aussi à la fonte des calottes glaciaires, le Groenland et au nord et l'Antarctique au sud. L'Antarctique contribue pour 20 à 30% à l'élévation du niveau de la mer chaque année, et cela risque de s'accélérer avec ce réchauffement climatique qui est de plus en plus marqué en Antarctique, avec un risque supplémentaire qui est celui d'une instabilité d'une partie de l'Antarctique, l'Antarctique de l'Ouest. C'est la partie qui est située, disons, dans le prolongement de la péninsule antarctique, et bien de l'Amérique du Sud, puis de la péninsule antarctique. Et bien, il y a une certaine fragilité de cette région qui a se désintégrer, est équivalente à une élévation du niveau de la mer de l'ordre de 5 mètres. Donc ce risque, c'est un risque, disons, potentiel, mais le réchauffement climatique est vraiment un problème en Antarctique, surtout aussi à l'élévation à l'échelle planétaire, par rapport à l'élévation du niveau de la mer auquel l'Antarctique risque de contribuer, alors non pas simplement au cours des prochaines décennies, mais surtout au cours des prochains siècles.
Très bien. Ces derniers temps, on voit qu'avec l'aggravation des effets du réchauffement, coïncide un retour un peu du climato-scepticisme. Est-ce que vous aviez vu venir ce phénomène ?
Oui, le climato-scepticisme a été très marqué dans les années 2000, en particulier parce qu'il y avait effectivement un ralentissement du réchauffement climatique, mais notre communauté scientifique disait à juste titre que ce ralentissement était temporaire, et en fait le réchauffement est reparti sur le rythme prévu, je l'ai déjà dit, sur les années 2010, il s'est même accéléré sur la décennie actuelle. On voit bien que pratiquement les 15 dernières années sont les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Même si notre communauté scientifique affirme désormais que ce réchauffement climatique est dû de façon certaine aux activités humaines et dans son ensemble, le climato-scepticisme est toujours là. Je crois que c'est un climato-scepticisme, effectivement, qui se rend compte qu'il n'y a plus d'arguments scientifiques. Donc c'est un climato-scepticisme un peu différent. Visiblement, il n'y a plus d'arguments scientifiques sérieux. Donc ça se construit autour de raisonnements effectivement extrêmement classiques. On ne prend pas du tout à la réalité. Disons, au message de la communauté scientifique, ce n'est pas le seul domaine. On peut parler des vaccins, c'est toute idée. Oui. Ce climato-scepticisme devient un peu du complotisme. Voilà. Donc, il n'y a pas de. Je crois, un combat d'arrière-garde. C'est justement parce que beaucoup de gens sentent que la communauté scientifique a raison, qu'ils se cabrent d'une certaine façon et que ce climato-scepticisme reste là en disant on n'y croit pas, on ne veut pas y croire, même s'il n'y a plus d'arguments pour ne pas croire à la réalité du réchauffement et au rôle des activités humaines dans ce réchauffement.
Alors, la menace climatique est-elle aujourd'hui assez forte pour justifier une politique drastique et volontaire de privation de l'usage massif des énergies fossiles ?
Alors, quand on parle de privation de l'usage massif des énergies fossiles, oui, bien sûr. Si on veut limiter le réchauffement climatique, bien en deçà de 2 degrés, il faudra atteindre la neutralité carbone dans la deuxième partie de ce siècle. Et c'est encore plus contraignant si on veut, et ce serait beaucoup mieux, revenir à un réchauffement limité à 1,5 degré en moyenne planétaire. Cela permettrait vraiment aux jeunes d'aujourd'hui de s'adapter au réchauffement climatique en trop de difficultés dans la seconde partie de ce siècle. Mais c'est vraiment extrêmement contraignant, puisque quand on parle de neutralité carbone, actuellement, les combustibles fossiles sont pour 80% dans les émissions de gaz carbonique, et il faut vraiment réduire de façon drastique notre utilisation de combustibles fossiles d'ici 2050 si on veut atteindre ces objectifs ambitieux mais nécessaires du point de vue du climatologue. Donc, peut-on parler de privation ? Non, parce que je crois que les combustibles fossiles nous fournissent de l'énergie, certes, c'est la première source de production d'énergie actuellement, mais elle est aussi d'ailleurs source de beaucoup de pollution, alors pollution urbaine, pollution sonore, pollution industrielle. Et ce qui est important, je crois, ce n'est pas cette privation des combustibles fossiles, c'est notre capacité à être en mesure de fournir suffisamment d'énergie à l'ensemble de la planète pour qu'elle puisse se développer correctement. Alors quand on parle d'énergie suffisante, on pense aussi à cette notion de sobriété. Il faut aussi que nous sachions que l'énergie n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser sans limite. Alors il y a cette notion de sobriété, mais il y a aussi bien sûr le développement de sources alternatives. On va en parler en premier lieu à l'échelle planétaire des énergies renouvelables, de production d'énergie, mais aussi certains pays, c'est le cas de la France, s'appuient sur l'énergie nucléaire, alors qu'il y a aussi d'autres problèmes et qui a le mérite de ne pas produire d'effet de serre lorsqu'elle se développe. Donc, on peut de façon très claire fournir l'énergie suffisante à l'ensemble de la planète en limitant, en diminuant considérablement notre utilisation de combustibles fossiles, mais en développant de façon volontariste les énergies renouvelables et dans les pays qui font ce choix aussi, bien sûr, un peu les énergies nucléaires.
Dites-nous, Jean Jouzel, sincèrement, est-ce que vous n'êtes pas découragé parfois des faibles résultats obtenus après toutes ces années à tenter d'alerter les décideurs pour les pousser à changer de braquet ?
Oui, on ne peut pas dire qu'il n'y ait rien eu de fait. Il y a une vingtaine d'années, quand on parlait du scénario business as usual, on parlait d'un réchauffement qui pourrait aller en moyenne planétaire vers 4 ou 5 degrés. Actuellement, nous sommes sur une trajectoire qui nous emmène plutôt vers 3 degrés en moyenne planétaire, hein, au moins 4 degrés en France et un peu plus dans certaines régions avec des vagues de chaleur importantes. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu de fait, mais on est loin du compte. Donc, ce qu'il faut, c'est accélérer. Je suis effectivement déçu que nous n'ayons pas pris le bon chemin après le protocole de Kyoto. L'accord de Copenhague a été un échec. L'accord de Paris est ambitieux, mais nous sommes loin du compte. Il faudrait, pour en respecter les objectifs, diminuer de 45% nos émissions à horizon 2030. On voit bien que ce n'est pas le chemin que nous prenons. Je le redis, nous ne sommes pas vers des trajectoires bien en deçà de 2 degrés, mais plutôt au-dessus de 3 degrés. Ceci étant, il n'y a pas rien eu de fait sans le cri d'alerte des scientifiques, la prise en compte du développement des renouvelables, la prise en compte aussi de la sobriété énergétique, en tout cas de l'efficacité énergétique, a permis quand même de passer plutôt d'un horizon à plus 5 degrés, un horizon à plus 3 degrés, c'est moins mal. Donc il y a beaucoup à faire, il faut continuer. Donc oui, je suis déçu, mais je crois qu'un dixième de degré, ça compte, c'est le message important, et il faut tout faire pour limiter le réchauffement climatique et donc diminuer nos émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement possible. Mais l'action est possible à l'échelle individuelle, à l'échelle des États, des entreprises. L'enseignement est important, l'éducation est très importante, il y a beaucoup à faire. Donc, c'est plutôt un message d'action que j'essaie de donner, même si je suis un peu déçu de l'état de la planète actuellement, bien évidemment.
Merci. Je vous propose qu'on fasse une courte pause et puis on se retrouve tout de suite après avec notre invité sur IDFM Radio, Jean Jouzel, le paléoclimatologue Jean Jouzel. She figured it out. She started a job. She's feeling it out. And for once, it feels right. She's feeling like the prime of her life. But all of that is just a dream. Shattered now, and everything's changed. With one car and one night, it's driving through the prime of your life.
taking me in, but where was I? Well, he took his life, but I was singing in the prime of my life. I'd rather be here thinking about the now, 'cause this breath could fade fast and this day could be your last.
Vous êtes de retour sur IDFM Radio, toujours dans l'émission Mission Planète Terre, avec notre invité, le paléoclimatologue Jean Jouzel. Alors Jean Jouzel, est-ce qu'on peut faire un voyage dans le futur avec vous? Quel bulletin météo, par exemple, nous sera présenté dans les années 2040-2050?
2050, eh bien, tout le problème, c'est disons là, je crois que les bulletins météo, nous y sommes sensibles à travers les événements extrêmes. Et on voit bien que ces événements extrêmes risquent de se multiplier, de devenir plus intenses. Et par exemple, les vagues de chaleur en ville, eh bien, on pourrait atteindre 50 degrés d'ici 2050. Alors ponctuellement, bien sûr, et avec les problèmes d'îlots de chaleur, faire face vraiment à des villes qui deviennent difficiles à vivre l'été. Mais aussi, il y a les problèmes d'accélération, d'élévation du niveau de la mer. Il y a les autres problèmes aussi d'extrêmes climatiques, que ce soit les inondations à répétition qui deviennent de plus en plus importantes dans certaines régions, on le voit bien chaque année, mais aussi les sécheresses qui posent des problèmes en termes de productivité agricole, les feux de forêt qui contribuent aussi aux émissions de gaz à effet de serre additionnels. Donc vraiment, il faut tout faire pour limiter le réchauffement climatique si nous voulons éviter un bulletin météo qui nous dise cette possibilité de réchauffement qui pourrait atteindre 50 degrés, je le redis ponctuellement, dans les villes d'ici à horizon 2050. C'est vraiment, on doit tout faire pour éviter cela. Disons que il y a vraiment des régions de la planète qui risquent de devenir invivables. C'est ça le problème aussi. C'est-à-dire, disons, il y a des conditions de température et d'humidité qui font que on ne peut plus avoir d'activité normale, soit d'activité de travail ou d'activité physique, de sport, dehors. Et donc, ça pourrait toucher à cette échéance la moitié de la population de la planète, c'est-à-dire qu'ils seraient obligés, pour continuer à vivre normalement, de vivre terrés chez elles. Et c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Donc, la seule solution, c'est de ne pas aller vers des réchauffements de 2 à 3 degrés d'ici 2050, qui pourraient largement dépasser en moyenne planétaire des 2 degrés.
D'accord.
Et il est encore temps de faire cela, mais c'est maintenant qu'il faut agir si on veut préserver la capacité d'adaptation des jeunes d'aujourd'hui d'ici 2050 et au-delà. C'est un message très clair. C'est maintenant qu'il faut agir.
Merci Jean Jouzel d'avoir été l'invité d'IDFM Radio. Et nous vous souhaitons une très bonne journée.
Merci beaucoup Olivier Prêtre.
Je rappelle que nous étions avec Jean Jouzel, le paléoclimatologue, prix Nobel de la paix avec le bureau du GIEC, du groupe d'experts intergouvernemental, en 2007.